France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, les dieux rôdaient, oui, bon, d'accord. Mais où rôdaient-ils ces dieux? Dans quel monde? Dans quel espace? La question n'est pas simple. Les dieux et les déesses, pour la plupart, ne rôdaient pas dans un monde qui leur préexistait, qu'ils trouvaient déjà fait, et qu'il suffisait de visiter, d'habiter, de meubler pour le rendre vivant et intéressant. Les dieux, en naissant, puis en rôdant ici ou là, faisaient le monde, fabriquaient l'espace, le temps, pour qu'il y ait un ciel stable au-dessus de nous, avec ses étoiles la nuit ou sa lumière du jour. Pour que sous nos pieds, il y ait une terre solide et profonde, il a fallu un tas d'événements, d'histoires, de luttes, de violences entre les dieux.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
La nature, c'était les dieux. Elle n'existait pas en dehors d'eux. Ils la faisaient, la transformaient. Ils étaient la nature. Pour qu'elle prenne la forme que nous lui connaissons, ou que les Grecs à l'époque connaissaient, avec la voûte céleste, avec la terre et la mer, avec l'océan qui en fait le tour, et loin en dessous, les profondeurs sombres et sordides qu'ils appelaient l'Hadès. Pour qu'il y ait ce monde bien ordonné, il en a fallu du temps, des histoires, souvent violentes. L'espace, le temps, n'étaient pas donnés. Les dieux et les déesses ont dû les produire, l'un l'autre, ensemble. En naissant les uns après les autres, les dieux étaient déjà dans le temps, mais ce temps n'avait pas encore de forme. Les dieux ont alors construit le temps tel qu'on le connaît, dans la succession des nuits et des jours, dans la croissance et la décroissance des êtres. Pour cela, ils ont dû être très actifs. Ils ont procréé, lutté, souffert, et produit progressivement, génération après génération, le temps dans ses aspects différents et l'espace où les êtres peuvent se déployer, puis disparaître. Nous suivrons une de ces divinités qui ont fait le monde. La plus importante, la déesse Terre, celle qui nous a vu naître, et même qui nous a fait naître, puisque les humains, au départ, c'est de la Terre, plus ou moins humide et façonnée. Et c'est notre lieu naturel. Nous ne volons pas. Nous nageons un peu, mais pas trop. Comme disent les Grecs, nous sommes des mortels, posés sur le sol, epiktoniri. Si nous sommes en dessous du sol, upoktoniri, c'est que c'est grave, nous n'existons plus. Or, cette terre, qui nous est si familière, est passée par des transformations radicales, par des actions inouïes, parfois très violentes, imprévues, pour devenir notre environnement, notre sol. Elle a dû ruser, mentir, cacher, détruire, inventer des techniques raffinées et trompeuses, et dire qu'à l'époque pas si lointaine du maréchal Pétain, certains disaient que la terre ne ment pas. Ils n'avaient rien vu, rien compris. Terre, en grec, se dit gai ou ga, selon les régions. On retrouve le mot gai dans géographie, la description de la terre, géométrie, la mesure de la terre, géothermie, géodésique, etc. Le mot gai ou ga, les Grecs ne savaient pas l'analyser. C'était un mot brut, d'une seule syllabe, insécable, dur comme un caillou. Les savants modernes n'ont eux-mêmes aucune idée de son origine. Souvent, les poètes, au lieu de gai, disaient Gaïa. Le mot a exactement le même sens que gai. Gai ou Gaïa, c'est à la fois la terre matérielle, particulière, locale, où l'on habite, que l'on cultive, qui nous nourrit, et la terre tout entière, entourée par les flots de l'océan. C'est aussi une déesse imposante, une des toutes premières divinités, parfois la première. Déesse, elle a été confrontée à d'autres divinités, à beaucoup de héros. Elle est au cœur de beaucoup d'histoires. Essayons de suivre les aventures de Gaïa, cette grande dame si vivante et imprévisible qui nous héberge, la belle Lady Gaïa. Les humains, habitants de Gaïa, la Terre, n'ont joué aucun rôle dans cette construction progressive et douloureuse du monde. Ils sont trop faibles. Ce sont des êtres éphémères, disait-on, pas plus consistants que le rêve d'une ombre ou que les feuilles qui tombent des arbres à l'automne. Mais justement, c'est leur faiblesse qui était intéressante. Elle était le point de départ de l'interrogation sur les origines du monde. On ne cherchait pas d'abord à parler du monde en soi, de sa forme, de sa composition, de ses mouvements, mais du monde tel qu'il fait sens pour nous, les pauvres mortels. Si on racontait l'histoire de la formation du monde, il fallait se débrouiller pour fabriquer avec des dieux puissants et immortels la nécessité de la mort des humains, de la précarité de l'existence humaine, soumise à la guerre, à la famine, aux maladies et rarement capable de bonheur. Bref, tout le contraire des dieux. Il fallait que le monde, dont on racontait l'histoire, montre toute sa puissance divine, sa force, comme le monde qui nous dépasse et souvent nous écrase. Mais il fallait aussi que ce monde soit vivable pour les mortels, comme espace et temps où les humains peuvent agir, accomplir des actes mémorables et essayer des formes de félicité le mieux possible, avant de disparaître irrémédiablement. Les dieux ont livré aux femmes et aux hommes un monde bien organisé, mais plein de dangers. Liberté était laissée aux humains d'éviter ces dangers, de s'en tirer et de se débrouiller au mieux. Ulysse, dont nous avons suivi les aventures pendant toute cette saison, en a fait l'expérience. Il a tout vu, ou presque, du monde, en suivant le cours de l'immense fleuve circulaire qu'est l'océan. Ulysse a fait avec son bateau le tour complet de Gaïa, de la Terre, qui à l'époque était plate. Heureusement, ça a vite changé depuis. Au 6e ou au 5e siècle avant Jésus-Christ, la Terre est devenue sphérique, comme maintenant. Ulysse est même allé au-delà de l'océan, jusqu'au pays des morts, et en est revenu. Il a sillonné toute la mer Méditerranée, de l'extrême est chez la magicienne Circé, à l'extrême ouest chez Calypso, l'amoureuse. Ulysse a découvert le monde, alors qu'il n'en avait aucune envie. À chaque étape, il a dû affronter des dangers immenses et a risqué de perdre non seulement la vie, mais son humanité. Il a failli être mangé comme une bête par le cyclope, être transformé en porc ou châtré par la belle magicienne Circé, ou changé en immortel par la nymphe Calypso, qu'il aurait retenu loin de tout, confiné dans son petit paradis du côté du couchant. Chaque fois, Ulysse s'est débrouillé pour s'échapper et rentrer chez lui. Il a couru tout le monde, mais sans le vouloir. Il n'était pas un explorateur. Il avait seulement le désir de rentrer à la maison dans sa petite île d'Ithaque et d'y vivre comme avant. Il y est arrivé, avec peine. Le monde qu'a parcouru Ulysse était dangereux pour les humains. Un dieu pouvait toujours vous réserver une mauvaise surprise. Mais ce monde était si bien organisé, ordonné, que les Grecs l'ont appelé le cosmos. Un mot qui veut dire l'ordre, l'agencement. On parle par exemple du cosmos d'une construction quand elle est bien faite, comme l'immense assemblage de poutres et de planches qu'était le cheval de Troie. Le mot a une valeur très positive. Cosmos signifie aussi l'ornement, le bijou. Les étoiles sont ainsi les grandes parures, cosmoi, que possède la nuit. Le mot peut dire aussi la gloire et l'honneur. Il ne faut pas oublier que le contraire du mot français « monde », qui vient du latin « mundus », l'équivalent du grec « cosmos », c'est « immonde ». Le monde dans lequel nous vivons avec les dieux, le cosmos, est ordre et beauté. Tout le problème pour les Grecs était de trouver un lien, une forme d'harmonie possible entre ce monde magnifique, clairement structuré par les dieux, le cosmos, et les difficultés, les misères infinies de la vie humaine, instable et toujours en danger. Quand on était en péril, il fallait trouver un moyen solide de se raccrocher à l'ordre souverain des choses pour montrer qu'on y avait sa place. C'est ce qui se passe avec la cérémonie du serment. Quand un humain, ou même un dieu, avait peur d'être exclu de sa communauté, quand il pensait que les autres n'allaient pas le croire, il affirmait sa vérité en jurant par toutes les parties qui composent le cosmos. Ce qu'il disait avait ainsi la solidité du monde. Et s'il mentait, il s'excluait lui-même du monde. Ainsi, pendant la guerre de Troie, Grecs et Troyens, un jour, en ont eu assez de se battre. Ils ont décidé de conclure un pacte. Le conflit serait désormais réglé non plus par une bataille généralisée et meurtrière, mais par un duel entre les deux principaux adversaires. Paris, le prince troyen qui a enlevé sournoisement Hélène, la femme de Ménélas, et a ainsi provoqué la guerre. Et Ménélas, le mari cocu, est plein de rage. Les deux vont se battre. Le survivant gagnerait Hélène. Mais il faut d'abord que Grecs et Troyens soient d'accord et acceptent à l'avance l'issue de ce duel. Pour cela, ils devront jurer. Le serment solennel que vont prêter les deux armées sera accompagné du sacrifice de 3 agneaux, un blanc pour le ciel lumineux, un noir pour Gaïa à la terre, et un troisième qui sera offert au dieu suprême, Zeus. En effet, l'ordre naturel des choses ne tient que parce que ce dieu souverain veille sur le maintien de l'ordonnancement du monde. Si on ne respecte pas son serment, si on est parjure, on subira la terrible violence punitive de Zeus. C'est ce que Ménélas annonce à ses ennemis, les Troyens. L'engagement que vont prendre les deux armées se fera au nom de l'ordre des choses, et il sera terrible pour quiconque ne le respecte pas.
Apporter un couple d'agneaux, un blanc, une agnelle noire, pour Gaïa et pour le soleil. Et pour Zeus, nous apporterons un autre. Que personne, par transgression, ne blesse les serments que Zeus garantit.
Juste avant le sacrifice des agneaux, Ménélas fait appel aux grandes puissances du cosmos, au nom desquelles les adversaires vont s'engager. Pour que toutes les parties du monde soient prises à témoin, il invoque les deux divinités infernales qui, sous la terre, s'occupent de punir éternellement les humains qui trahissent leur serment. Hadès et son épouse Perséphone, les divinités des enfers.
Ménélas, fils d'Atrée, fit une grande prière, levant les mains.
Zeus Père, maître de l'Ida, le plus glorieux, le plus grand, et soleil, qui voit tout et qui entend tout, et fleuve, et Gaïa, et vous qui tous deux sous terre châtiez les hommes abattus qui ont juré un serment de parjure, soyez témoins et protégez les serments fiables.
En fait, ce serment ne sera pas respecté, non pas à cause des mortels, mais à cause des dieux eux-mêmes, qui voulaient à tout prix que la guerre reprenne entre Grecs et Troyens. Mais ça, c'est une autre histoire, et c'est grâce à cette trahison divine que nous avons l'Iliade. Pour les dieux, c'est la même chose. Entre eux, ils prêtent serment au nom de l'ordre des choses, au nom du cosmos. Ils mentionnent alors avec crainte une divinité terrible, menaçante, l'eau glacée d'un fleuve souterrain, le Styx, dont le nom Styx veut dire qu'il glace d'horreur. Cette eau est la fille aînée de l'océan, le fleuve qui encercle la terre. Elle s'enfonce en longues vrilles jusqu'au tréfonds obscur du monde. Elle suinte dans une grotte abyssale. Jurée par le Styx, c'est accepter de se mettre sous une menace redoutable. Les dieux qui ont juré par l'eau terrifiante du Styx et qui trahissent leur serment sont voués, nous dit-on, à passer une année complète dans le coma. Puis pendant 9 ans, ils sont bannis de la compagnie des dieux qu'ils n'ont pas le droit de fréquenter. Un jour, Héra, la grande déesse épouse de Zeus, a dû prêter un tel serment et invoquer l'eau du Styx. Elle s'était jouée de son mari, Zeus, en le séduisant, en lui faisant l'amour, pour qu'il s'endorme et la laisse libre de faire ce qu'elle veut. Le mari se réveille et voyant qu'il a été trompé, il est passablement mécontent. Héra doit le convaincre qu'elle n'est pas, elle, responsable de tout ce qui s'est passé pendant son sommeil d'amant repu. Face à la colère de son époux, elle jure un grand serment. Elle jure par le ciel et par Gaïa, et elle ajoute comme garant de la vérité de son serment l'eau du Styx, la tête de Zeus et leur lit royal. Ce qui quand même ne manque pas d'humour, puisqu'ils viennent de coucher ensemble, et c'est comme ça, par l'amour conjugal, qu'elle a trompé son mari en le poussant vers un doux sommeil.
Héra, la souveraine, à l'œil de vache, frissonna. Elle prit la parole et adressa à Zeus des mots ailés.
Que tout de suite la terre le sache, et le vaste ciel au-dessus, et l'eau ruisselante du Styx, qui est le plus grand, le plus terrifiant des serments pour les dieux bienheureux, et ta tête sacrée, et le lit que nous partageons tous les deux pour notre mariage. Par lui, jamais je ne jurerai pour rien.
Prêter un serment entre humains, ou même entre dieux, c'est reconnaître l'existence d'un monde bien ordonné, un cosmos, qui tient solidement par l'autorité qu'exerce un dieu, Zeus. Et c'est affirmer qu'on se soumet à cet ordre. On lance alors contre soi-même une très grande menace. Si on est parjure, on se met en dehors de l'ordre des choses, de sa beauté bien réglée, et on n'existe plus.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
You tell me it gets better, it gets better in time. You say to pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know, how could you know? Till it happens to you, you don't know how it feels, how it feels. Hold your head up and be strong. 'Cause when you fall, you gotta get up. You gotta get up and move on. Tell me how the hell can you talk? How can you talk? 'Cause until you walk where I walk, it's just all talk. Till it happens to you, you don't know how it feels, how it feels. Till it happens to you, you won't know. It won't be real. No, it won't be real. Won't know how I feel. Till your world burns and crashes, till you're at the end of your road, till you're standing in my shoes. I don't wanna hear nothing from you, from you, from you. 'Cause you don't know. Till it happens to you, you don't know how I feel, how I feel.
Pierre Judet de la Combe raconte les aventures de Lady Gaïa, la déesse Terre.
À cette époque, un discours, humain ou divin, pouvait être considéré comme vrai s'il était conforme à l'ordre des choses, à l'ordonnancement régulier et grandiose du cosmos. Ce serait difficilement imaginable aujourd'hui. Nous ne prêtons pas serment au nom d'un ordre naturel, d'une cosmologie. Nous n'invoquons pas la structure des atomes, de la matière et de l'antimatière. Nous n'invoquons pas la forme de l'univers, sa vitesse d'expansion, tout simplement parce que pour la plupart d'entre nous, nous n'y comprenons strictement rien. Et surtout, il n'y a là rien d'évident, de sûr. Les spécialistes même s'écharpent à l'infini sur les particules élémentaires, sur les ondes gravitationnelles, les étoiles, l'espace. Et c'est normal, puisque la science est faite d'abord de controverses. C'est comme ça qu'elle avance. On ne voit pas comment on pourrait jurer au nom d'une hypothèse scientifique toujours critiquable et inaccessible au plus grand nombre. Ce que la science contemporaine nous dit du monde ne correspond à rien de ce que nous voyons avec nos yeux. alors que notre langage courant est toujours dépendant de notre expérience sensible. Nous continuons à dire que le soleil se lève et se couche, alors que l'on sait parfaitement que c'est faux. C'est la terre qui bouge, pas lui. Mais en parlant comme ça, nous nous faisons comprendre de tout le monde. Et cela correspond à notre expérience de ce qu'est une journée, puis une nuit. Pour les Grecs, l'existence d'un ordre harmonieux dans la nature visible, environnante, était une évidence et on pouvait l'invoquer dans un sermon. Plus tard, à la vérité d'un ordre dans la nature s'est substituée la vérité absolue d'une révélation divine. Et on s'est mis à jurer au nom de la parole de Dieu, transcrite dans des textes sacrés. Dans certains pays, on jure sur la Bible. Ça passe pour être du solide, comme le cosmos autrefois. Puis, cette évidence religieuse s'est estompée. Et on s'est mis à jurer au nom de sa conscience, ce qui permet beaucoup d'à peu près et d'incertitude. Dans la vie courante, nous n'arrêtons pas de prêter serment en signant sur l'honneur des tas de papiers administratifs. Mais le sentiment de contrainte n'est pas très puissant. Pour un Grec, c'était terrible. Si on se parjurait, les déesses de la malédiction, les Erinnyes, filles sanguinaires de la nuit, vous tombez dessus. Valait mieux pas. Les Grecs anciens vivaient donc dans un cosmos bien construit, équilibré. Mais d'où venait ce cosmos? Comment s'est-il constitué avec ses régions clairement délimitées, le ciel, la terre, l'océan, le monde souterrain, avec son ordre régulier des saisons, avec les mouvements bien prévisibles des astres? Ce monde stable, ordonné, n'a pas toujours existé. Il a bien fallu le produire. Comme tout était divin, les montagnes, les fleuves, la mer, le ciel, les étoiles, les zones obscures sous la terre, toutes ces choses avaient une histoire, une naissance. Les divinités sont éternelles, à quelques très rares exceptions près. Mais cela ne veut pas dire qu'elles existaient depuis toujours. Elles sont nées à un moment ou à un autre. Et l'ordre de leur naissance est décisif pour la construction de l'univers. Pour comprendre le monde tel qu'on le voyait, il fallait savoir remonter à ses débuts et raconter son histoire. Et ce n'était pas simple. Il s'agissait d'événements auxquels aucun mortel n'avait assisté. Il fallait spéculer, tester des modèles différents et choisir le plus pertinent, celui qui expliquait le plus clairement la diversité des choses. On pouvait s'en remettre aux traditions, ou au contraire innover, en s'aidant des divinités omniscientes qu'étaient les muses, filles de Zeus et de la déesse mémoire. Parfois, les muses passaient pour être les filles de Gaïa, la déesse terre. Gaïa, justement, était la déesse la plus féconde, la plus productive. On le voit bien avec l'infinité des formes qu'elle peut prendre, avec la multitude des êtres vivants, animaux, végétaux, humains, et aussi divins qu'elle porte, qu'elle a fait naître et qu'elle nourrit. Mais Gaïa n'était pas la seule divinité productrice. Il pouvait y avoir d'autres dieux et déesses avant elle, ou à côté d'elle, comme la nuit, ou l'océan, ou l'éther, le dieu de la clarté du ciel. Cela dépendait de ce que découvraient les poètes, de ce qu'ils choisissaient comme origine du monde. Il n'y avait dans cette civilisation grecque aucune tradition sacrée, aucun texte censé révéler un point de vue divin, un seul. Il fallait choisir entre plusieurs possibilités et se battre pour imposer son idée sur les débuts de l'univers. Quel dieu, quelle déesse mettre en premier? Des conflits éclataient, mais il y avait accord pour dire que Gaïa, qui nous porte, qui porte l'Olympe et l'infinité des êtres, qui cache les morts dans ses profondeurs, était la divinité la plus inventive, la plus féconde. Essayons de comprendre quelque chose à l'histoire de Gaïa. Aux histoires que racontaient les anciens, ce n'était pas très simple. Ce qui frappe quand on regarde l'histoire des si nombreux enfants que Gaïa a produits, c'est que Gaïa, la mère quasi infinie, n'est souvent pas contente du tout de sa progéniture. Il arrive souvent qu'elle se révolte contre elle et qu'elle la supprime. Gaïa, dans les mythes, n'a pas toujours été une bonne mère. Elle a pu être féroce contre ses enfants. Elle est un être rusé, imprévisible, qui use des techniques les plus raffinées pour arriver à ses fins. Pas une nature innocente. La nature, pour les Grecs, est une marâtre. Nous n'avons malheureusement pas beaucoup de textes sur les tout débuts du monde et sur le rôle qui joue Gaïa, la déesse terre. Est-elle née après l'océan, après la déesse nuit? Ça variait, selon les poètes. Le récit le plus complet se trouve chez Hésiode, ce poète que nous avons déjà rencontré plusieurs fois. Il a composé un poème plutôt court, moins d'un millier de vers, sur la naissance des dieux, la Théogonie, qui est un poème sur la naissance du monde où nous vivons actuellement. Hésiode a vécu sans doute un peu après Homère, à la fin du 8e siècle ou au début du 7e siècle avant Jésus-Christ. Dans son poème, Hésiode se propose de faire le ménage dans toutes les traditions mythologiques qu'il connaissait. Visiblement, il n'était pas satisfait par les propositions de ses collègues. Homère, on y reviendra, mettait Océan et son épouse Thétis à l'origine des êtres. D'autres mettaient la déesse Nuit ou le dieu de la lumière, de la clarté du ciel, l'éther. Pour Hésiode, ces solutions étaient visiblement trop simplistes. Le monde, le cosmos, ne peut pas venir d'un dieu ou d'un couple initial. Comme le monde est extrêmement compliqué, divers, imprévisible pour nous les mortels, il faut se creuser davantage la tête et poser au départ une origine qui explique cette profusion d'êtres si différents qui naissent, qui meurent pour la plupart, qui luttent entre eux et qui forment néanmoins un monde, un tout homogène, un cosmos. Hésiode a inventé une origine du monde complexe et extraordinairement éclairante. Il a imaginé que tout a commencé par une série de trois dieux totalement indépendants les uns des autres et complémentaires. Il les fait naître dans un ordre précis. D'abord, il pose le chaos, chaos, un grand vide, une béance, une ouverture qui n'a pas de forme. On apprendra plus tard qu'il est très profond et secoué par des tempêtes incessantes. Puis, en deuxième, Hésiode fait naître la déesse Terre, Gaïa à la vaste poitrine. Elle est tout le contraire de chaos. Elle est stable, solide. Elle est bien structurée, équilibrée, avec deux pôles extrêmes qui se répondent et se complètent nettement. En haut, la pointe lumineuse, enneigée du mont Olympe, où vont vivre éternellement les dieux bienheureux. En bas, les gouffres sombres du Tartare, qui peuvent servir de prison lugubre pour les dieux qui ont été vaincus et mis hors course. Puis, en troisième, comme il faut faire naître une infinité d'êtres, Hésiode pose un dieu ultra-puissant, le dieu désir ou amour, Eros, qui fait la loi chez les immortels et chez les humains. Il faut bien un dieu souverain, puisqu'il s'agit d'engendrer tous les êtres qui peuplent le monde.
Au tout début, en vérité, est né Chaos, puis après lui, Terre, Gaïa à la vaste poitrine, inébranlable assise pour toujours de tous les immortels qui occupent les cimes de l'Olympe neigeux et les lieux brumeux du Tartare dans les tréfonds de la terre aux larges routes, et Eros, qui est le plus beau des dieux immortels, délieur des membres. De tous les dieux et de tous les hommes, il assujettit l'esprit dans la poitrine et la décision réfléchie.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de la Combe.
Thank you. Je t'aime quand tu n'as pas besoin de quelque chose ni de quelqu'un, et que tu deviens filante et que plus rien ne te retient. Quand tu fais des ellipses et même lorsque tu m'éclipses, si tu devenais pâle, tu ferais encore de l'ombre aux étoiles. Je t'aime quand tu dis que nous sommes tour à tour astres et astronomes, quand tu ressembles à une pomme à la recherche d'un économe. Je t'aime quand tu es ordinaire, quand tu préfères te taire et que perdu dans ton mystère, tu me chasses de ton univers. Je t'aime quand ce n'est que physique, comme un boson de Higgs, quand on s'attire dans des cailloux pour qu'il n'y ait plus rien entre nous, quand nous ne savons même plus à quand remonte le début, quand tu me dis avec ta langue je suis le bing et toi le bang.
Pierre Judet de la Combe nous parle des trois divinités premières selon Hésiode.
Avec ces trois divinités, Chaos, Gaïa, Eros, le monde peut démarrer. Chaos, le grand vide turbulent, informe, va se mettre à engendrer tout seul. Il ne couche pas avec Gaïa. Il n'y aura jamais d'union entre Chaos et Gaïa, ni entre leurs descendants, sauf quelques cas très rares et plutôt monstrueux. Chaos produit tout seul deux êtres qui lui ressemblent, le dieu ténèbres, Erebos, et la déesse nuit, Nux. L'amour, Eros, peut alors intervenir. Les deux enfants de Chaos couchent ensemble, ils n'ont pas le choix. Et là, c'est surprenant. Ils produisent deux êtres qui ne leur ressemblent pas du tout, qui sont même leur contraire. Ils enfantent Éther, c'est-à-dire la lumière qu'on voit pendant la journée régner dans le ciel. Et la déesse éclatante qui porte le nom de jour, Emera. On retrouve son nom, Emera, dans notre mot éphémère, pour les êtres qui ne vivent qu'un seul jour. C'est bizarre à première vue. La lumière et le jour viennent de nuit et des ténèbres. En fait, ce n'est pas si bizarre que cela. La lumière de l'éther et du jour permet de voir clairement des formes, des êtres bien définis. Il peut sembler raisonnable de penser que ce qui est clair, bien défini, sorte de l'informe, du confus, de l'indistinct, comme on voit le jour émerger de la nuit. Puis la déesse nuit se met à engendrer tout ce qui limite autoritairement les existences, la mort, le sommeil, les divinités du destin, les moires, qui coupent le fil des vies humaines quand il le faut. Et la déesse querelle, qui fait tant de mal aux hommes, avec les guerres, les haines, les désordres, les famines. Chaos, ce grand vide menaçant, turbulent, qui bouscule tout, est ainsi à l'origine du temps, comme puissance intraitable qui s'impose autoritairement aux existences sans qu'on puisse rien y faire. C'est à cause de Chaos et de sa descendance que nous vivons dans l'alternance immuable, mécanique et infinie de la nuit et du jour. C'est à cause de lui que nous sommes confrontés à la mort, à tout ce qui use et détruit la vie. Ce sont des descendantes de Chaos, les divinités du destin, les moires, qui viennent arrêter les existences. Pour dire le jour de la mort, tant redouté, les Grecs disaient « le jour du destin, mort Simone, Emma ». Avec Chaos et ses enfants, naît le temps comme succession implacable, mécanique, régulière, des jours et des nuits, jusqu'au jour final. Les Grecs appelaient cette succession « Chronos », avec un H. Le temps régulier, immuable de la chronologie, la succession mécanique des moments. Nous dirions « le temps des horloges » qui s'impose à tous. Avec Gaïa, la déesse Terre, c'est différent. Une autre idée du temps va se mettre en place. C'est le temps de la vie, de son énergie qui permet à la vie de se déployer dans l'espace, le temps que les Grecs appelaient Aion. Cette temporalité vivante ne sera pas toujours très gaie. Gaïa donne la vie à énormément d'êtres. Elle est positive en ce sens, mais elle sait être terrible, meurtrière contre les êtres qu'elle engendre. Elle donne et reprend. Il faut se méfier de Gaïa. Ce n'est pas une bonne mère. Pour engendrer la masse des êtres que nous voyons proliférer autour de nous, il faut d'abord construire un lieu pour tout le monde. Il faut construire un espace qui soit vaste, accueillant, bien ordonné. Gaïa s'y emploie, ça n'ira pas sans mal. Gaïa commence par donner naissance à un partenaire fiable. Elle engendre le dieu ciel, appelé Uranos. Elle s'arrange pour qu'il ait exactement la même taille qu'elle, pour qu'il la couvre en entier. Avec terre et ciel, un monde équilibré, stable est né. Gaïa en profite pour se donner une forme remarquable, variée. Elle engendre les montagnes avec leurs vallées couvertes de forêts. Les nymphes pourront y folâtrer. Et elle, la terrienne, engendre le dieu de la mer, le dieu du grand large, Pontos. dieu mouvementé qui peut enfler et créer des montagnes d'eau quand il est furieux. Pontos, cela veut dire le passage, le lieu que les bateaux vont traverser, toujours avec crainte. C'est de la même famille que notre mot, un pont. Avec son fils Pontos, Gaïa va engendrer toute une série de monstres marins, plus invraisemblables et redoutables les uns que les autres. Mais comme Gaïa, déesse très féconde et fantasque, elle fait aussi naître un dieu de la sagesse, Néré, que les humains vont appeler le vieillard de la mer. Il a la sagesse d'un vieux. Il ne ment jamais, il est infaillible et doux et aime la justice. Gaïa peut faire naître tout ce qu'elle veut. Elle est libre. C'est avec son fils Ciel, le dieu Uranos, que ça va se corser. Couchant avec lui, Gaïa va engendrer toute une lignée royale de maîtres du monde. Mais ça va très vite mal se passer. Les ennuis vont commencer. Gaïa et Uranos, terre et ciel, s'unissent. Ils ont beaucoup d'enfants, entre autres Océan, Hyperion, le dieu d'en haut, Théia, Rhea, Mémoire, Phoïbé, la lumineuse, Thémis, la justice, et finalement, le dieu Cronos, sans âge. Gaïa fait naître aussi des enfants extrêmement brutaux, les cyclopes, à l'ardeur puissante. Ils fabriquent la foudre dans leur atelier. Ils n'avaient qu'un seul œil bien rond. Puis vinrent une autre série de fils qui étaient aussi très violents, mais qui, à l'inverse des cyclopes, étaient caractérisés non par un manque, avec un seul œil au lieu de deux, mais par une prolifération de membres. Ils avaient 100 bras et 50 têtes. C'était des brutes épouvantables. Gaïa, dont son immense fécondité était libre de faire naître n'importe quoi, ce qu'elle voulait, alors engendrait aussi bien des divinités de lumière comme Hyperion, qui est souvent un autre nom du soleil, ou Phoïbé, ou des dieux qui donnent sa forme au monde comme le ciel ou océan. Mais elle pouvait aussi être la mère de monstres affreux. Elle avait une fécondité tous azimuts. Uranos, le ciel, aurait pu être un père heureux d'une telle fécondité. En réalité, il ne veut pas de ses enfants. Il a peur qu'ils prennent sa place. Il décide alors de ne pas les laisser voir le jour. Dès qu'un enfant devait naître, il lui interdisait de monter à la lumière. Il l'enfouissait dans le corps de Gaïa. La domination masculine était complète. Le dieu mâle pensait affirmer l'ordre, la permanence face à la prolifération naturelle désordonnée. Mal lui en a pris, le pauvre. Comprimée par tous ses enfants qui ne naissaient pas et s'accumulaient en elle, Gaïa n'en finissait pas de souffrir. Elle gémissait. Mais Gaïa est pleine de ressources. Elle invente une ruse. Au lieu de chercher à faire proliférer des êtres et à leur faire voir le jour, elle fait l'inverse. Elle se replie sur elle-même, elle se creuse. Et dans une de ces sombres cavités, Gaïa fait naître un filon de métal. Puis, la déesse Terre, repliée sur elle-même, se fait artisane, technicienne. Elle devient métallurgiste. Elle forge le métal qu'elle a fait naître en son sein et lui donne la forme d'une grande serpe aux dents aiguës. Nature et technique pour Gaïa n'étaient pas du tout opposées. Heinz Wissmann, lumineux éclaireur de textes et de concepts, y a insisté. C'est le repli sur soi, la réflexion, la technique et la ruse de Gaïa qui vont lui permettre de procréer et de se déployer.
Zeus a partagé les fiefs entre ses frères et ses sœurs pour avoir la paix.
Heinz Wissmann, philosophe.
Parce que ce qui est très amusant dans la mythologie, c'est que le conflit initial entre terre et ciel se répète à chaque génération. Et Cronos, il va avaler ses enfants pour refaire l'un. Et Zeus va être le dernier de ses enfants que sa mère soustrait à son père en lui faisant avaler une pierre entourée de langes. Et c'est donc Terre qui va élever, avec le lait d'une chèvre, Zeus, dans une grotte, toujours dans une grotte, puisque le féminin, c'est le retrait, c'est la négativité.
Une fois son outil forgé et aiguisé, Gaïa interroge ses enfants. Elle demande lequel serait prêt à châtrer son père quand le soir il viendra s'accoupler à elle, leur mère. C'est le seul moyen pour permettre aux enfants déjà conçus de naître vraiment, de sortir à la lumière. Tous sont effrayés à l'idée d'un tel acte sauvage. Ils refusent, sauf le dernier conçu, Cronos. Il se porte volontaire. C'est pour cela qu'on dira de Cronos qu'il est un dieu aux pensées tordues. Ses pensées ont la forme de la serpe qu'il va brandir contre son père. La chose a lieu. Un soir, Uranos, le père, vient faire l'amour avec Gaïa. Cronos, en embuscade, s'empare de son sexe, le fauche et le jette loin derrière lui.
Gaïa plaça Cronos à l'affût en le dissimulant et mit dans ses mains la serpe aux dents aiguës. Elle lui exposa la ruse entièrement. apportant la nuit avec lui, le grand Ouranos arriva. Autour de Gaïa, désirant l'amour, il se plaça et se déploya en tous sens. L'enfant se lança hors de l'affût, main gauche tendue. De la droite, il saisit la serpe énorme, longue, aux dents aiguës, et dans son élan moissonna le sexe de son père. Ramenant son butin, il le jeta derrière lui pour qu'il soit emporté.
L'effet est radical. Ouranos, raccourci, hurle et lâche son étreinte. Il s'éloigne et devient pour toujours le dieu céleste qui couvre le monde, mais de loin. Grâce à cette castration, un grand espace est ouvert entre le ciel et la terre, entre Ouranos et Gaïa. Leurs enfants peuvent enfin voir le jour et la vie de tous les êtres devient possible. Mais la castration a d'autres effets. En un sens, elle est féconde. Des gouttes de sang du père tombent sur la terre, sur Gaïa. De ce sang naissent des divinités terribles, les Erinis, divinités de la vengeance. Naissent aussi les affreux géants et des nymphes guerrières. Quant au sexe du père, il ne sera pas coupé en vain. Son fils l'a jeté à la mer, par-dessus son épaule. Le sexe flotte, emporté par les courants. Avec le mouvement des vagues, une écume commence à l'entourer. Et de cette écume naît la déesse de l'amour, la sublime Aphrodite, dont le nom rappelle l'écume qui se dit Aphros en grec. Aphrodite inspirera tous les désirs qui feront naître les êtres vivants, animaux, plantes, humains, divinités. C'est donc une castration qui est à l'origine de l'amour universel.
Can you come around? Fuck me nice. Pull my hair. Sing me lullabies. And we can pretend that we're in love. When you come.
Feel.
Pierre Judée de la Combe raconte les sombres ruses de Gaïa.
Le dieu Uranos est en colère, et ça se comprend. Il maudit ses enfants, qui l'ont mutilé pour toujours. Le castrateur Cronos a pris le pouvoir à sa place et règne sur le monde. Mais ce Cronos se comporte exactement comme le père qui l'a châtré. Il épouse une de ses sœurs, Rhea, et a de nombreux enfants avec elle. Mais comme Uranos, il ne supporte pas l'idée qu'il puisse venir au monde et finir par le remplacer. Il avait peur, d'autant que sa mère Gaïa et son père Uranos lui avaient prédit qu'un enfant issu de lui le chasserait de son trône. Se croyant plus malin que son père, il enfouit ses enfants non dans le corps de son épouse, mais dans le sien, en les avalant l'un après l'autre. Son épouse, Rhea, est révoltée. Au moment où doit naître son dernier enfant, Zeus, elle s'insurge et consulte ses parents, Uranos et Gaïa. Elle leur demande d'inventer une ruse pour que son mari, Cronos, ne se rende pas compte de la naissance de ce fils.
Rhea avait un deuil inoubliable. Mais quand Zeus, père des dieux et des hommes, allait être mis au monde, à ce moment, elle supplia les parents chéris qui étaient les siens, Gaïa et Uranos, couverts d'astres, qu'ils méditent une ruse pour qu'elle soit oubliée quand elle mettrait au monde son fils chéri.
L'enfant naît. Gaïa accueille le bébé Zeus. Elle le protège en le cachant dans une grotte profonde où le petit sera nourri par une chèvre. Encore une fois, c'est en se creusant avec cette grotte que Gaïa va permettre à une nouvelle génération d'éclore. À Cronos, elle donne non pas l'enfant, mais une pierre enveloppée de l'ange. Cronos se fait avoir, il l'avale. Et des années plus tard, Zeus, devenu grand et fort, réussit on ne sait pas bien comment à faire vomir son père. Les frères et sœurs de Zeus peuvent venir au jour et se mettre à exister vraiment. Apparaissent à la lumière les grands dieux qui vont régner pour toujours. Hestia, déesse du foyer, Déméter, déesse des moissons, Héra aux sandales d'or qui sera l'épouse de Zeus, Poséidon, Hadès, le dieu des enfers. Zeus et ses frères et sœurs se débarrassent alors de la génération qui les a précédés en menant contre eux une guerre totale qui ébranle le monde et dure 10 ans. Zeus gagne. Il règne à la place de son père Cronos. Mais Gaïa n'est pas encore satisfaite. Il ne faudrait pas que Zeus se prenne pour le maître absolu et pense avoir tout réglé. Pour lui faire comprendre qu'il doit admettre qu'il y ait dans le monde une part de violence qu'il ne contrôle pas, indomptable, Gaïa couche avec le dieu Tartare, dieu des tréfonds du monde. Dieu qui est un abîme sans retour, où l'on enferme les dieux qui ont été vaincus. Ce dieu glauque, horrible, est en fait une réplique du tout premier des dieux, Chaos, le vide initial. Le côté peu appétissant du dieu Tartare n'arrête pas Gaïa. Elle accouche d'un monstre énorme, Typhée ou Typhon, un dieu épouvantable, avec 100 têtes de serpents. Elles émettent des sons incroyables, totalement incohérents. Ses têtes pouvaient beugler comme des taureaux ou couiner comme de petits chiots. Les flammes qui sortaient de leurs yeux incendiaient tout ce qu'elles rencontraient. Zeus a eu un mal fou à supprimer ce monstre. Typhée, fils de Gaïa et de Tartare, a bien failli gagner et régner sur le monde. Et Zeus finit par l'abattre avec sa foudre. Gaïa elle-même en souffre, elle s'enflamme et se met à fondre quand son fils grandiose est abattu. Frappé par la foudre, le dieu Typhée vit toujours, immortel. De sa force incroyable sont issus les typhons qui ravagent le monde, qui détruisent bateaux et récoltes et qui aujourd'hui sont de plus en plus fréquents.
De Typhée est issue la violence des vents qui soufflent humides, à l'exception du Notos, du Borée et du Zéphyr qui éclaircit. Ces vents-là sont de race divine, un grand avantage pour les mortels. Les vents issus de Typhée soufflent follement sur la mer. Quand ils tombent sur la mer brumeuse, grand fléau pour les mortels, ils sont furieux en bourrasque mauvaise. L'un ou l'autre, n'importe, souffle n'importe quand, disperse les bateaux et anéantit les marins. Il n'y a pas de résistance contre le mal pour les hommes qui les affrontent sur la mer. Ils soufflent aussi sur la terre infinie couverte de fleurs et anéantissent les travaux chéris des hommes nés de la terre en les emplissant de poussière et de tumultes douloureux.
Gaïa fait donc en sorte que d'immenses forces destructrices incontrôlables puissent encore sévir dans le monde. Mais elle n'arrêtera pas d'étonner. Elle prévoit aussi que face à tous les désordres possibles, une harmonie doit régner pour toujours. Gaïa fait alors de la politique. Elle va complètement changer de pied et prendre le parti de l'ordre, mais d'une manière qui lui ressemble. Au lieu de faire proliférer des êtres plus puissants, plus vigoureux les uns que les autres, elle va imposer la réflexion, la retenue, et créer ainsi la possibilité d'un ordre divin qui puisse durer. Avec Typhée, elle avait fait naître un adversaire exubérant et coriace de Zeus. Après la défaite de ce Typhée, elle s'arrange pour que Zeus règne définitivement sur tous les dieux. Gaïa conseille alors au dieu vainqueur Zeus de ne pas chercher à imposer sa force, mais au contraire, d'instaurer chez les dieux un ordre politique mesuré qui soit juste. Elle va pousser Zeus, son petit-fils, à ne pas faire le tyran comme son père Cronos ou son grand-père Uranos. Il faut que Zeus, le plus puissant des dieux, se retienne, qu'il n'abuse pas de sa foudre pour écrabouiller les autres dieux. Il doit instaurer dans l'Olympe un ordre politique qui respecte les différences entre les dieux. Zeus doit procéder, dit-elle, à une répartition équilibrée des pouvoirs entre tous les dieux de l'Olympe.
Selon les avis sensés de Gaïa, les dieux poussèrent Zeus, l'Olympien qui voit loin, à être roi et à commander aux immortels. Et pour eux, Zeus partagea correctement les honneurs.
Le monde désormais, grâce à Gaïa, peut fonctionner indéfiniment. Gaïa est double. Elle est l'énergie proliférante qui fait naître, qui fait croître une infinité d'êtres et nourrit leur vigueur. Mais elle est aussi la force qui empêche ces êtres énergiques de tout bloquer, d'imposer brutalement leur puissance en tyrannisant les autres. Pour que Gaïa puisse continuer à produire, à se renouveler, à déployer son énergie vivante, pour que le temps reste ouverte, il faut qu'elle s'arrête. Gaïa alors se replie sur elle-même, se creuse et réfléchit. Dans les cavités de son corps, dans les profondeurs de son esprit, elle fabrique des ruses, des tromperies, elle invente les techniques qui empêchent tout blocage. Elle invente une serre bien aiguisée pour que son mari, le ciel, se retire. Elle invente la ruse d'une pierre recouverte de l'ange pour que son fils Cronos arrête d'avaler ses enfants. Elle invente un régime politique équilibré pour que Zeus ne joue pas au tyran. Et avec nous, les mortels, comment fait Gaïa pour que nous soit ouverte la possibilité de vivre? Nous interrogerons Lady Gaïa la semaine prochaine.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de la Combe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Andrea Lechêne. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Gaspard Guibourget. Bonne journée sur France Inter.